Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Déclic. Nom masculin. Moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux.
Salut. C'est Sophie et Juliette de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Aujourd'hui, nous recevons Jade. Jade s'est récemment réorientée dans le cinéma d'animation alors que toutes les personnes autour d'elle ou presque lui soutenaient qu'elle ne pourrait pas y arriver. Malgré les découragements, les jurys d'école hostiles et des proches peu impliqués, elle a réussi à se reconvertir dans ce métier qui la faisait tant rêver en n'écoutant que son instinct et son envie viscérale d'y arriver. Et ce soir, dans Le Déclic, on reçoit Jade. Salut Jade.
Salut Juliette.
Comment tu vas?
Mais écoute, très bien, par ce soir de pré-annonce de confinement.
J'avais oublié que tu faisais du podcast et que du coup, tu as une très jolie voix.
Merci, d'habitude, c'est comme je fais du talk, que je parle beaucoup trop vite. Là, je vais essayer de poser ma voix pour ce soir, rien que pour toi.
C'est très gentil, parce que moi aussi, je parle beaucoup trop vite. Donc, si jamais on est à deux, ça va, les pauvres auditeurs, je les plains. Alors du coup, Jeanne, je te remercie de faire partie du Déclic. Et comme tu le sais, parce que tu es une auditrice du Déclic, et d'ailleurs on t'en remercie beaucoup, dans notre podcast, on revient souvent sur l'avant de nos invités, enfin même systématiquement. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs?
Oui, bien sûr. Eh bien, je m'appelle Jade, j'ai 26 ans et je travaille dans le milieu du cinéma d'animation à Paris.
Et... aujourd'hui, justement, on va parler avec toi de cette reconversion professionnelle, puisque avant, spoiler alert, tu n'étais pas dans le cinéma d'animation. Qu'est-ce que tu as fait? Justement, revenons sur l'avant. Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Qu'est-ce que tu as fait comme métier ensuite?
Pour commencer, j'ai toujours été un petit peu la bonne élève de la famille. Donc, tu vois, le genre de personne que ses parents pousse un petit peu en disant « fais des études, tu trouveras un travail plus tard ». Sauf que je n'avais pas forcément de vocation en faisant ça. Je savais ce que j'aimais de manière générale, c'est-à-dire les livres et le cinéma. Donc, je ne savais pas vraiment vers quoi m'orienter. J'ai commencé par faire un DUT en métier du livre pour travailler dans l'édition. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ça ne s'est pas très, très bien passé. Ça a été un petit peu traumatisant et je suis sortie de cette expérience et de ces 2 années d'études un peu dégoûtée. Je me suis ensuite orientée vers le journalisme pour pouvoir parler de cinéma et devenir un petit peu critique et chroniqueuse, ce que j'ai fait pendant plusieurs années par la suite. Et une fois que j'ai terminé cette licence professionnelle, j'ai enchaîné directement avec un master en me disant que ça allait pouvoir m'aider à trouver du travail plus tard et peut-être que ça me donnerait un petit peu plus l'opportunité de faire des stages et de pouvoir prendre le temps, prendre ces 2 années pour savoir ce que je voulais vraiment faire. J'ai fait un master en communication culturelle, plus précisément dans le cinéma et le milieu de l'audiovisuel. Et j'ai terminé ces études en faisant un stage de 6 mois dans la distribution audiovisuelle.
Oui, donc en fait, tu as toujours été un peu baignée dans l'art, le cinéma. Donc finalement, cette reconversion dans le cinéma d'animation, c'est pas si déconnant que ça.
C'est pas si déconnant que ça. Après, c'est juste le métier qui est totalement différent de ce vers quoi je m'orientais. Par exemple, la distribution, ce qui m'intéressait vraiment énormément au début, ça n'a rien à voir avec la production. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas exactement le même quotidien professionnel.
Et justement, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, et moi d'ailleurs, j'avoue que je connais que très peu cet univers, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il y a comme différence entre la distribution et la production ?
La production, c'est produire un film, c'est-à-dire tu vas chercher les financements pour faire ton film et tu vas accompagner la fabrication de ce film jusqu'à la post-production, jusqu'à avoir un produit fini. Une fois que tu as ce produit fini, donc c'est-à-dire ton film, ta série, tu vas contacter un diffuseur. Parfois même le diffuseur, il arrive à l'étape de l'écriture des scénarios et ce diffuseur va s'occuper de diffuser le film, c'est-à-dire dans le cas d'une série, ça peut être une chaîne de télévision comme par exemple France TV, Arte, des choses comme ça qui interviennent plutôt tôt par rapport à la production d'un produit. Et dans le cas du cinéma, il va s'occuper de la distribution en salle, ça veut dire les copies, voir dans combien de salles il va être, la programmation, Il va également s'occuper de la communication et des ventes à l'international pour que le film puisse être diffusé dans d'autres pays.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, dans la distribution, tu as un côté plus relation presse, un peu plus sur le devant de la scène, puisqu'en fait, tu vas vendre ton film, tu as un côté un petit peu commercial, pour le dire de façon très vulgaire, mais la production, tu as un peu plus derrière, en fait.
Tu as mis le doigt exactement sur la différence qui a fait que la distribution, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Lors de ce stage de 6 mois, je me suis retrouvée en fait avec des personnes qui sortaient d'HEC, qui sortaient d'école de commerce. D'accord. Et qui n'étaient pas forcément passionnées, contrairement à moi, où je prenais vraiment, peut-être c'était ma faute aussi d'une certaine manière, je prenais vraiment un peu les choses à cœur et j'avais vraiment envie de faire les choses et ça ne s'est pas soldé de manière très positive comme expérience et ça m'a dégoûtée du milieu de la distribution.
Ça dit, je pense qu'il n'y a jamais de moment où c'est de ta faute. Je pense que c'est aussi peut-être un milieu où on ne s'attend pas. C'est un milieu qui attire beaucoup de personnes un peu aux dents longues, hein, sans vouloir faire de clichés. Mais effectivement, comme ce sont des milieux qui peuvent, pour certaines personnes, engranger beaucoup d'argent, je pense que c'est un milieu peut-être où il y a un peu beaucoup de concurrence.
Oui, je pense également que je me suis retrouvée pas forcément au bon moment et au bon endroit, dans le sens où la personne qui m'a engagée a quitté l'entreprise 2 mois après mon arrivée et je me suis retrouvée complètement livrée à moi-même, à une place où il n'y avait que des stagiaires. Tu vois, c'était vraiment un bullshit job, quoi. C'était vraiment un taf à stagiaire, alors qu'en fait, tu faisais 36 000 choses à la fois.
Ouais.
Enfin, je faisais gagner de l'argent à la société et... Voilà, j'étais payée comme une stagiaire, donc à l'époque, je crois que les stages, c'était 590 € au mois.
Ouais.
Donc, tu vois,
super, c'était... à Paris.
Bah, voilà, à Paris, ce qui ne paye pas le loyer, malheureusement. Et j'avais vraiment terminé ce stage, je ne m'entendais pas avec les patrons, et comme j'avais plus de tutrices qui étaient tampons au-dessus de moi, ça s'est vraiment mal terminé, même si je n'ai pas fait de conneries, j'ai pas déconné, je n'ai pas mal fait mon travail. Mais je me suis juste pas entendue avec des gens qui n'étaient pas du même milieu que moi, qui n'étaient pas là pour les mêmes raisons que moi. Et ça s'est soldé par, tu sais, Jade, dans le milieu, tout le monde parle. Hein, si on n'a pas envie que tu réussisses ta carrière, tu la réussiras pas.
Aïe.
Voilà. Alors que j'avais rien fait de spécial. J'avais bien fait mon taf. C'est juste que, le personnel et le professionnel, parfois, certaines personnes n'arrivent pas à faire la différence.
Et alors du coup, en fait, est-ce que c'est au bout de ce stage-là que tu t'es dit que ça y est, le cinéma d'animation, c'est quelque chose que tu envisageais? Ou est-ce que ça a pris un petit peu plus de temps?
Ça a pris un petit peu plus de temps dans le sens où j'ai terminé mon cursus scolaire, la première partie de mon cursus scolaire avec ce stage, et je me suis retrouvée à me dire « Ok, j'ai mon master, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je repars en doctorat ? Non, j'ai pas envie de me retaper 3 années à faire des thèses, merci mais non merci. » Donc j'ai pris un petit peu de temps pour moi et j'ai été travailler à l'UGC des Halles en tant qu'ouvreuse et vendeuse de pop-corn, histoire de me poser, d'avoir un taf qui me vide un petit peu la tête. C'était pas forcément une période très heureuse de ma vie. J'ai rompu avec mon ex-petite amie, c'était une relation de très longtemps et j'avais juste besoin de souffler. Et ça m'est apparu, j'ai quelqu'un qui m'a conseillé cette formation en me disant « tu devrais jeter un œil, ça pourrait te convenir ». Et je me souviens que j'étais tombée sur une formation de production dans le cinéma d'animation. Donc tu sais, je commence un petit peu à me renseigner, à regarder de quoi il en retourne. Le cinéma d'animation, j'ai toujours adoré ça, je suis passionnée, j'ai travaillé sur des livres sur le cinéma d'animation. Et quand je me suis renseignée sur la formation, quand j'ai vu ce qu'était le quotidien et le métier de producteur dans le milieu de l'animation, j'ai fait « mais c'est une évidence ». En fait, c'est vraiment apparu comme une évidence.
Et qu'est-ce qui a fait... Après, moi, je retiens toujours une phrase d'un de mes profs au lycée qui disait que quand on aime réellement quelque chose, on a du mal à expliquer pourquoi. Est-ce que tu saurais nous dire un peu pourquoi tu étais toujours portée vers faire ce domaine spécifique du cinéma, puisque je suppose que c'est pas du tout les mêmes codes, c'est pas du tout les mêmes personnes, c'est pas du tout les mêmes métiers?
Tout ce que je peux te dire, c'est que quand je vois un film d'animation, je pleure. Je peux pas te dire pourquoi, en fait, ça crée un trop-plein d'émotions. Je trouve ça tellement beau de voir des images animées de plein de manières différentes que ça provoque un truc en moi et je chiale automatiquement. Je peux pas t'expliquer pourquoi, ça me touche profondément et c'est aussi une manière de raconter des histoires, c'est une manière d'être beaucoup plus libre, créativement parlant, que le cinéma ordinaire. C'est pas du tout les mêmes processus de fabrication. C'est quelque chose qui me parle beaucoup plus que le live où j'avais déjà essayé d'aller sur des courts-métrages et c'était vraiment pas ma tasse de thé.
Ouais, mais c'est vrai, peut-être qu'il y a... En fait, c'est vrai que nous, surtout les enfants, on est dans les années 90, etc., on a toujours été abreuvés de dessins animés, parce qu'il y avait évidemment Disney qui était là depuis des décennies, mais en plus, les dessins animés, les sacs cartoons, les mini-cums, tous les dessins animés qu'il y avait sur les différentes chaînes quand on rentrait à l'école, mais c'est vrai qu'on oublie un peu le côté fait main derrière. Bon, maintenant, c'est plus de logiciel, etc. Mais il y a toujours du dessin pour certains. Et puis, même, c'est toujours du travail, même si c'est de l'animation 3D sur des logiciels et compagnie. Mais c'est vrai que peut-être, c'est peut-être le côté fait main qui te touche, je ne sais pas. Moi, c'est quelque chose qui me touche pour ça, en fait. Des gamines, je me disais, mais waouh, ce sont des gens qui dessinent et ça donne ça, incroyable.
Oui, c'est exactement ça. C'est incroyable de se dire, enfin, j'avais même pas conscience de tout le travail que ça représentait avant même de mettre les pieds dedans, mais ouais, je suis d'accord avec toi, peut-être aussi, comme tu disais, le rapport au dessin animé de la télévision le matin quand on se levait, le week-end. Je me souviens qu'il y avait des dessins animés Disney qui n'étaient pas très beaux, faut dire ce qui est, mais il y avait il y avait les Nickelodeon, et également les Adult Swim. Maintenant, il y a plein de dessins animés aussi pour les adultes, et je trouve ça vraiment... fabuleux, Cartoon Network, je suis une fan inconditionnelle de ce qu'ils font, je pense à Steven Universe, voilà, il y a plein de très jolies choses qui sont faites aujourd'hui, même plus que dans les années 90.
Ouais, et il y a plus de choses pour les adultes, parce que moi j'y pense, j'avoue que je ne pense pas être autant passionnée que toi, je suis même pas passionnée de cinéma d'animation, mais j'aime beaucoup, je suis une aficionado, dirons-nous, et c'est vrai que moi je suis particulièrement fan des séries animées, en fait, genre les classiques, les Simpsons, etc. Moi, je suis une grande fan de Simpsons et de American Dad, de Seth Rogen, etc. Seth MacFarlane, pardon, pour les puristes qui vont me taper dessus. voilà, moi, je suis une grande fan aussi du cinéma, des séries d'animation. Je trouve ça... Il y a un côté un peu rassurant, mais avec des codes à nous et de l'humour à nous, quoi.
Oui, bah, c'est quelque chose pour les grands. En fait, on a tendance à penser que, parce que c'est un dessin animé, qu'on a formaté un peu le format dessin animé à être pour les enfants.
Ouais.
On a tendance à plutôt l'orienter, surtout en France, dans le milieu de la production, vers ce qu'on appelle le preschool, c'est-à-dire les années vraiment école primaire, collège, ce genre de choses, et des choses vraiment très formatées et très clichés. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça commence un petit peu plus à s'épanouir, un petit peu plus à s'ouvrir vers le cinéma d'animation pour adultes. Et c'est très cool. En tout cas, moi, en ce moment, je travaille sur une série d'animation pour adultes. Donc, je peux te dire que c'est vraiment très bien.
C'est chouette, non, mais en plus, je pense que ça va avec toute cette mode aussi, parce que, par exemple, depuis plusieurs années maintenant, les bandes dessinées pour adultes ont explosé.
Oui, totalement, totalement. Mais...
Ça va, je pense que ça va avec le côté un petit peu... après, je ne suis pas une spécialiste, je fais mes analyses de comptoir. Hein. et du coup, en fait, quand tu nous as envoyé ton témoignage pour participer au déclic, tu nous as dit qu'il y avait de nombreuses personnes qui ont essayé, parfois sans forcément le faire exprès, de te décourager un petit peu pour te lancer dans cette voie. Comment tu as reçu cette expérience, ces sentiments négatifs desquels tu étais peut-être abreuvée?
Dans un premier temps... pas forcément très bien, parce que j'étais dans une période de ma vie où tout était remis en question. J'étais une période dans ma vie où ça n'allait pas forcément très très bien, où je me disais « Ok, ça me plaît vraiment, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse ?» Mais en même temps, ça me paraissait tellement évident que je l'aurais regretté toute ma vie si je ne l'avais pas fait. Ça a commencé avec mon cercle vraiment très proche, à savoir mes parents, qui comprennent aujourd'hui toujours pas forcément ce que je fais.
Ouais.
Mais qui me disait, tu vas pas reprendre tes études, mais enfin, le cinéma d'animation, c'est un métier de saltimbanque, enfin. après, cinéma, tu vois, j'ai un ex-petit ami qui travaille dans le cinéma, donc ils ont pu un petit peu mieux voir ce que c'était, tu vois, il était de la fémis, donc forcément, ça met des paillettes dans les yeux. Et moi, je visais l'école des Gobelins, donc qui est l'école d'animation en France. Donc, j'espérais que mes parents puissent comprendre et puissent être un petit peu rassurés du fait que j'essaye cette école. Mais ça ne les a pas forcément rassurés. Et tout ce qui s'est passé après ne les a pas forcément plus rassurés dans mon choix.
Ouais.
Mais c'est vrai que pas mal autour de moi me disaient « Mais tu as déjà fait 5 ans d'études, tu as déjà de l'expérience. Pourquoi est-ce que tu te lances dans un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu as fait auparavant ?»
Et parce que justement, on reviendra après sur ton entourage qui s'est pas montré très forcément, qui t'a pas forcément beaucoup soutenu pendant ton changement de voie. Mais est-ce que tu peux nous dire, en fait, la formation que t'as fait, c'est en combien de temps, comment ça se passe, etc.
La formation que j'ai fait, c'est la licence de gestion professionnelle à l'école des Gobelins.
Donc c'est 3 ans.
Non, c'est qu'une année.
Ah d'accord. Okay. Ah oui, pardon, ok.
Et souvent, c'est ce qui se passe avant, c'est que la personne qui va aller en licence professionnelle a fait, dans le meilleur des cas, un BTS de production audiovisuelle. C'est souvent un petit peu le parcours type, ou une licence de cinéma. Moi, c'est vrai que j'arrivais avec un cursus, un certain bagage universitaire derrière moi, donc j'ai vraiment pas le profil type. Mais voilà, ça se fait en une année et c'est accessible à partir du moment où on a fait 2 ans de formation, de préférence dans un secteur proche, c'est-à-dire la communication, le cinéma, voire la production dans le meilleur des cas.
Et du coup, comment ça se déroule? Je prends les questions à l'envers, hein, tu le vois. Mais comment ça s'est déroulé cette formation? Et comment on fait pour rentrer dans ce milieu? Donc, à part la licence pro, etc., qu'est-ce qu'on apprend? Voilà, parce que c'est pour les personnes que ça intéresserait, et je suppose qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent, parce que ce sont des métiers qui sont absolument passionnants. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel était ton quotidien en tant qu'élève?
Bah, mon quotidien, il a été un peu spécial parce que j'ai fait cette licence professionnelle l'année où une certaine maladie, un certain virus qui s'appelle le Covid est tombé. Mais en temps normal, déjà, pour reprendre un petit peu tes questions, pour rentrer au Gobelin, ou à Gobelin, ça dépend comment on dit, bah, souvent c'est une école qui forme déjà les animateurs, donc il faut savoir dessiner, il faut avoir une patte, voilà. Mais ce n'est pas le cursus que j'ai suivi. Mais de manière générale, pour être producteur, il y a plein de moyens d'être producteur. Ce qui est très très cool avec la formation des Gobelins, c'est que ça te permet d'accéder tout de suite à un cercle privilégié. Je n'aime pas dire ce genre de choses, mais ça te donne la carte du club en fait.
D'accord.
Estimé de par le fait que tu sois d'une école un peu prestigieuse. Et ce qui m'a fait choisir également cette formation, c'est qu'elle se fait en alternance. Et moi, je sortais de 5 années universitaires. J'en avais marre des études.
Ouais, normal.
Vraiment, j'apprenais tellement plus sur le terrain et en stage que dans mes études que c'était la condition sine qua non pour reprendre mes études. C'était vraiment, je dois être la moitié de mon temps dans un milieu professionnel. Je sais que j'apprendrai plus dans ce milieu-là et que je serai beaucoup plus satisfaite et que j'aurai moins cette sensation de reprendre des études.
Et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que tu avais comme cours, par exemple?
On a plein de cours. Hein. Tu peux avoir des cours d'histoire du cinéma pour les choses les plus basiques. Tu peux avoir des cours sur les différentes techniques en animation 2D et 3D. Et tu vas avoir des cours pour gérer tes plannings, gérer des équipes, gérer des quotas. C'est-à-dire calculer combien de temps d'animation tu vas faire par jour pour organiser justement ton planning, la gestion de budget, la gestion de devis. En fait, producteur, il y a un petit peu deux facettes dans le milieu de l'animation. Tu vas avoir le producteur qui va essayer de trouver des financements, qui va vraiment accompagner le projet de A à Z en tant qu'exécutif, c'est-à-dire accompagner, trouver des financements auprès du CNC, voilà, trouver peut-être des studios pour, avec lesquels coproduire, vraiment suivre le projet d'un point de vue artistique. Et tu vas avoir le producteur, qui est souvent le chargé de production, qui va être un petit peu plus dans tout ce qui est fabrication d'animation, ça veut dire suivre les différentes étapes d'animation, voire même quand tu es dans une grande prod, suivre une étape de fabrication bien précise.
C'est hyper intéressant. Et du coup, on va revenir sur la façon dont tu as pris ton entourage, ta reconversion. Donc, tu nous disais que tes parents, eux, avaient été un peu étonnés et voyant le cinéma d'animation un peu, pas d'un mauvais œil, mais d'un œil très, très un peu, bah, un œil de parent, quoi, finalement. Et les autres personnes de ton entourage, est-ce qu'elles t'ont soutenu ou est-ce qu'elles étaient réfractaires comme tes parents?
Réfractaire, je ne pense pas. Je pense que j'ai saoulé tout le monde pendant 2 ans avec cette histoire. J'ai vraiment saoulé mon entourage. J'en parlais matin, midi et soir. Je voyais ça comme la finalité, un but dans ma vie. C'était tellement une évidence. J'avais tellement envie de faire ça que j'en parlais matin, midi et soir. Et je me passionnais. J'apprenais, j'allais me renseigner par moi-même. Il y a eu la recherche d'alternance dont on parlera peut-être plus tard, qui m'a pris énormément de temps pendant 2 ans. Et je pense que les gens... Peut-être que j'ai pas eu le bon entourage aussi. C'était une période de ma vie où j'ai remis beaucoup de choses en question, dont mon cercle d'amis. Mmh. Et j'ai pas forcément eu des gens qui sont restés dans mon cercle privé très proche. Et peut-être que je ne fréquentais pas non plus les bonnes personnes qui n'étaient pas là forcément pour m'encourager.
Et comment t'as fait pour passer outre tout ça? Parce que très honnêtement, moi je suis admirative, hein, parce que on aura beau dire qu'on a confiance en soi, qu'on suit que son instinct, etc. Quand tout le monde te met pas des embûches, mais quand tout le monde te fait douter, c'est difficile de pas douter de soi. Je suppose que t'as douté de toi, mais comment t'as fait pour continuer à y aller coûte que coûte?
J'ai mis des œillères. J'ai pas écouté. Je suis très tête de mule. J'ai pas écouté. C'est que à un moment, de quel droit les gens pensent que quelque chose est mieux pour moi ou est mauvais pour moi? J'ai fait, c'est une année d'études, c'est dans une grande école, il y a un moment, vous pouvez penser ce que vous voulez, ce n'est qu'une année d'études, ça ne va pas impacter votre vie de manière directe, donc voilà, laissez-moi essayer, laissez-moi aller jusqu'au bout, au pire c'est qu'une année, au mieux bah, j'ai trouvé une vocation et soyez heureux pour moi. Il y a un moment, je pense, quand tu ressens au plus profond de toi que c'est ce qu'il te faut, que cette chose te rendra profondément heureux ou t'apportera quelque chose, peut-être un peu, pas une raison d'être, ce serait vraiment porter la chose de manière trop importante, mais t'apporterait une raison de faire professionnel, je pense qu'il faut y aller. Et si tu te craches, bah tu te craches et tu réessayes autre chose. C'est pas très très grave.
C'est clair, je suis bien d'accord avec toi. Et puis je pense aussi qu'il y a un côté où, enfin en tout cas, je sais pas si toi t'es comme ça, et moi je sais que j'ai eu la chance d'être plus ou moins soutenue. Enfin bref, de toute façon, c'est pas mon déclic. Mais en fait, moi je pense qu'il y aurait un côté en fait, bah ok, bah, je vais vous le prouver en fait.
Oui, alors
Je pense
oui,
qu'il y aurait
énormément. C'est, j'aime bien l'esprit de contradiction. C'est même pas, je suis dans cet esprit,
ce
je l'aime bien.
côté.
C'est juste, on m'a dit, ah bah oui, en fait, c'est ça. C'est, il y a les gens qui ne comprennent pas, qui disent non, ne le fais pas parce que c'est pas bon pour toi. Et il y a les gens qui disent, tu ne peux pas le faire. Ce sont deux niveaux différents. Et les gens qui me disent que je peux pas le faire, je fais, attendez, je peux pas faire une année d'études. J'en ai fait cinq, je m'en suis très bien sortie. J'ai traversé plein de choses. C'est pas une année de plus qui va me tuer. Alors, eh ben, on va voir, écoutez. On se rappelle dans 5 ans et on voit ce qu'il en est. Et j'espère rappeler ces personnes d'ici quelques années, très honnêtement.
Ah bah tu m'étonnes. Mais alors justement, en fait, c'est là où ça me fait une bonne transition, c'est qu'en fait, ton chemin, il n'a pas été sans embûches, parce que non seulement tu n'as pas eu beaucoup de soutien de la part de tes proches, mais en plus, comme tu me le disais quand on a préparé cette interview, pardon, c'est que la première fois que tu as rencontré le jury des Gobelins, il y en avait qui étaient assez virulents à ton encontre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça?
Ouais, je peux même te dire que honnêtement, c'est l'une des pires humiliations que j'ai eues de ma vie. Ça a été vraiment très dur. C'est en gros le concours pour entrer dans cette licence professionnelle, il n'est pas compliqué. C'est sur dossier dans un premier temps, il y a un premier écrémage, et ensuite tu passes devant un jury pour une conversation d'à peu près 30 minutes. Donc tu vois vraiment rien qui me faisait vraiment peur. Ces étapes, je les connais, j'ai fait plein de jurys, ça me faisait vraiment pas peur. Mais en parallèle, il faut que tu commences à rechercher une alternance. Et
D'accord.
ça, c'est super important. Donc moi, je m'y suis mise vraiment très tôt. Je crois que je m'y suis mise en janvier 2018 pour commencer. Il me semble que c'était
Ah oui.
2018, oui, c'est ça. Et pour passer, le jury était en avril 2018. Donc tu vois,
D'accord.
j'avais 4 mois de battement.
Ouais.
Donc je cherche des entreprises, je cherche, je cherche. Je décroche des entretiens, j'arrive à intéresser des gens. Mais tu vois, c'est toujours tôt dans l'année, en fait.
Ouais.
C'est vraiment très tôt. Et je finis par trouver une entreprise qui me plaît vraiment beaucoup et qui me dit voilà, ah bah vous passez l'oral, pas de souci, bah on se voit la semaine d'après et on en parle. Donc moi, tu vois, j'y allais très confiante en me disant, attendez, j'ai une entreprise, j'ai eu des entretiens, vous voyez que je me bouge les fesses, voilà. Donc je vais à jury et au préalable, ce qui est important également de dire, c'est que j'avais fait les portes ouvertes et que j'avais rencontré en fait le jury devant lequel j'allais aller. Donc il m'avait demandé mon prénom, j'avais vérifié au préalable en expliquant mon parcours. Est-ce que c'est compatible? On m'avait dit oui, vous inquiétez pas, vous avez un parcours très intéressant. Nous, c'est quelque chose qu'on recherche également dans notre formation. Donc
D'accord.
j'y allais vraiment rassurée en me disant je connais les personnes, il n'y a pas de souci.
Oui, tu avais plutôt des signaux assez verts finalement.
Ah oui, totalement vert même, totalement vert. Il n'y avait vraiment aucune raison que je l'aie, vraiment aucune raison. Et j'y vais. Déjà, je passe le tout dernier jour après 3 jours d'oraux. Et je pense que j'étais même limite l'avant-dernière. Donc, ce qui n'est
Ah
pas
oui, d'accord.
forcément bon signe. Donc, j'y vais, je m'assois, je reconnais les personnes que j'ai rencontrées pendant ces portes ouvertes. Et on me demande d'expliquer mon parcours. Donc, tu vois, je fais la même chose qu'avec toi. Je dis, j'ai fait un DUT, j'ai fait une licence professionnelle. Là, le jury me coupe, me dit, attendez, vous avez fait une licence professionnelle? Professionnelle, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez travailler après. Faut savoir ce que vous voulez dans la vie.
Non
J'ai
mais.
fait. Waouh! Et tu vois, je me suis
Ouf.
dit, ok, ça se trouve, on essaie de me désarçonner, il n'y a pas de souci, j'y vais, je continue avec le smile, je leur explique, écoutez, moi, faire du journalisme, j'en fais toujours même à l'heure actuelle, donc c'est pas un problème, il y a un moment, on peut avoir deux activités à côté, ce n'est pas un souci. L'entretien se poursuit et je vois qu'on essaie vraiment de me mettre des bâtons dans les roues, je réponds à toutes les questions parfaitement, questions de connaissances, de culture générale, j'ai un discours assez bien rodé sur ce qu'est l'animation pour moi, questions en anglais, j'arrive à répondre, aucun souci, et vraiment je sens que ça bute, je sens qu'il y a quelque chose
Ouais.
qui ne passe pas, les références, même si c'est de l'animation, même si c'est des choses prestigieuses, ça passe pas, je ne peux pas t'expliquer pourquoi.
Ah, c'est un ressenti.
Voilà, et à la fin de l'entretien, on me dit vraiment, voilà, vous n'avez pas l'air de savoir trop ce que vous voulez. Non, mais voilà, on va vous expliquer en fait pourquoi on ne vous prend pas.
Ah, carrément en direct.
Voilà, votre profil, vous voyez bien, vous n'avez pas fait de production, mademoiselle. Vous n'allez pas comprendre nos cours. J'ai fait, écoutez,
Mais
vous êtes une école. Vous allez m'expliquer en fait, hein, il y a un moment,
c'est ça?
je viens de ce milieu, je connais ce milieu. Et on m'a dit, non, écoutez, vous allez vous retrouver avec des personnes qui ont fait un BTS audiovisuel, qui ont fait un BTS de production. Vous n'allez pas avoir le niveau, vous n'allez pas comprendre les cours. Et j'avais beau leur dire, écoutez, je pense que je connais mes capacités, je pense que Ce n'est pas non plus un niveau d'études absolument ultime que vous demandez. Vous demandez deux années d'études, j'ai un BTS, je connais les gens qui en sont passés. Et vraiment, ils étaient réfractaires, ils me disaient non, vous n'allez pas comprendre, vous n'avez pas les capacités, mademoiselle, vous ne semblez pas comprendre en fait. Et ça a été comme ça, mais pendant 20 minutes. Ah. Et j'avais beau essayer, et j'étais mais furieuse. Je suis vraiment sortie de cet entretien, furieuse en me disant attendez, j'ai tout fait, j'ai un entretien la semaine prochaine en alternance, j'ai eu plein d'entretiens, j'estime avoir les capacités. Si vous estimez que quelqu'un n'est pas apte à suivre vos cours, c'est que vos cours qui sont problématiques dans ces conditions.
Allez, bim.
Donc voilà, je suis sortie vraiment très en colère en leur disant bah, écoutez, c'est pas compliqué, on se dit à l'année prochaine. J'ai attendu d'être très très loin dans le métro pour m'écrouler en larmes et me dire bordel, c'est pas possible, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Qu'est-ce qui vient de m'arriver?
Et t'as une sacrée paire d'over, hein, parce que franchement, moi je pense que j'aurais fondu en larmes devant eux.
Non, jamais devant un jury. Moi, c'est toujours un petit peu mes conditions sine qua non, ne jamais pleurer devant un jury. Jamais. C'est faut pas craquer. Faut vraiment tenir. Et ça n'a pas été facile parce que tu vois, je voyais en fait tout ce que j'avais construit depuis 6 mois, tout ce que je travaillais en train de s'écrouler sans aucune raison. Donc voilà, ça a été vraiment un moment très difficile. Et bien entendu, 2 semaines plus tard, découverte, je ne l'avais pas.
Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à retenter? C'est encore une fois par esprit de contradiction, mais pour le défi que tu t'as décidé de retourner vers les Gobelins? Parce que tu vois, alors après ça dépend aussi, mais moi, fun fact, j'ai fait l'Institut supérieur des arts appliqués en cursus mode, mais je sais que le cursus animation est celui qui fait concurrence aux Gobelins, sauf que c'est la version privée. Mais du coup, est-ce que t'as pas eu envie de passer, bon, les écoles privées aussi, le problème étant le prix, mais est-ce que tu t'avais pas envie aussi de tenter d'autres écoles? Ça t'a pas dégoûté en fait des Gobelins?
La gestion de production en animation, c'est une formation qui est vraiment propre aux Gobelins. Donc en fait, j'avais pas 36 000 choix. Mais ce qui m'a encouragée, c'est que ce métier, plus j'en entendais parler, tu vois, je commençais à rencontrer des gens de ce milieu qui me racontaient leur quotidien professionnel. Et j'entendais ce qu'ils faisaient, je voyais ce qu'ils faisaient. Et plus ça passait, plus j'étais en mode, mais c'est exactement ce que je veux faire. Je me sentirais à l'aise dans ce genre d'expérience. Et le fait est que la première année où j'ai tenté cette école, j'ai rencontré une personne pendant que je travaillais à l'UGCDAL qui a tenté également cette formation et qui est devenue une très bonne amie à moi, vraiment une de mes meilleures copines. Et cette amie a eu le concours, contrairement à moi. Donc, j'ai pu suivre, en fait, avec elle en parallèle toute son année. Elle me racontait des cours, elle me racontait son quotidien, elle me racontait son quotidien en alternance. Et plus le temps passait, plus c'était une évidence, en fait. Je voulais vraiment faire ça. C'était quelque chose...
Ah, t'as pas lâché, quoi.
Non, du tout.
Et justement, est-ce que ça a été le même jury l'année d'après, quand tu as retenté?
Oh oui.
comment ils ont réagi quand ils t'ont... Est-ce qu'ils t'ont reconnu?
Oui, alors j'ai essayé de la jouer très fine en me disant que dans ce genre d'école, en fait, ce qui aide énormément, c'est que l'école te reconnaisse, entre guillemets, que voilà, on te voit traîner autour de l'école. Tu vois, j'ai vu ça avec la féministe, j'ai vu ça avec les Gobelins, donc en fait, j'ai cette meilleure copine, Kim, si tu passes par là, je te remercie, parce que sans toi, je n'en serais sans doute pas là, mais qui m'a un peu introduit dans le cercle, qui me disait quand il y avait des soirées où venir, des vernissages, des choses comme ça, donc je suis... toujours venu, les profs ont fini par me voir un peu systématiquement tout le temps, ce qui faisait que j'étais pas de la promotion, mais on me connaissait plus ou moins. Et quand je suis arrivée, je me souviens la deuxième fois que j'ai retenté, donc l'année d'après, bah, j'avais des élèves de la promo qui m'ont accompagnée à mon oral, les profs, ils m'avaient vue de multiples fois dans l'année, donc ils me connaissaient. Et je me suis retrouvée face à eux, et j'ai eu exactement le même discours que l'année précédente. Je me suis dit, attends, est-ce que ça va passer si j'ai le même
yes.
Ça n'avait pas changé en un an. Et ça a été le meilleur entretien de toute ma vie. Genre, c'était vanille, c'était chamallow, ça s'est jamais aussi bien passé alors que j'avais exactement les mêmes propos,
c'est fou.
Le même discours, les mêmes compétences, les mêmes connaissances. Enfin, connaissances, voilà, j'avais plus, j'avais un peu, un peu level up grâce à mon entourage. Mais je suis revenue vraiment avec les mêmes connaissances, les mêmes discours, et c'est passé sans aucun souci. Mais le jury a quand même eu un sacré culot. Il y a une question en anglais, et ma question en anglais, ça a été « Pourquoi est-ce que vous pensez que vous n'avez pas été prise l'année précédente ?»
Oh ?
Donc là, 2 solutions.
Oh, how dare you ?
Et j'ai eu le discours en disant « Je pense que je n'étais pas assez mûre, vous aviez raison,
fait,
je n'avais pas les compétences.
Non, mais t'as bien fait. Au moment, il faut être stratégique pour soi, quoi. Enfin, tu vois, c'est ton avenir que tu joues. Faut leur donner ce qu'ils ont envie, hein. Ce dont ils ont envie, pardon. C'est...
J'ai eu mal à mon amour propre. Très mal à mon ego. Et tu vois, c'est passé. Ils ont approuvé, ils ont dit oui, exactement, c'est ce qu'on pensait. J'étais pente de cou. Voilà. Peut-être ce podcast, je suis désolée, mais franchement, vous êtes vraiment comportés de manière pas très safe.
Mais de toute façon, j'ai l'impression que les personnes qui font partie de jury, etc., comme il y a le côté un peu genre pouce en l'air, pouce en bas, un peu à la César, tu vois, il y a un peu un côté, il y a un petit peu de problème d'ego, tu vois. Donc je pense qu'ils aiment bien entendre ce qu'ils veulent entendre, quoi. C'est.
Ouais, mais c'est quand même dingue que tu vois, d'une année à l'autre, juste en ayant fait un petit travail social et de communication, ça a changé, mais radicalement. Genre, l'entretien, il était merveilleux.
Mais je pense que la première fois, en fait, je sais pas, ils avaient dû être butés par un truc, t'avais dû leur faire tiquer sur quelque chose, où il y a une rêve qu'ils ont pas aimé, et du coup, ils t'ont pas pris en grippe, mais ils se sont dit non tout de suite, et ils ont pas pu changer, quoi.
Je te jure, pour l'expérience, j'ai vraiment sorti les mêmes rêves, j'ai mis la même tenue, je me suis dit...
Par contre, t'es une queen meuf, t'as une paire d'ovaires, mais genre, ils sont maous, quoi.
Bah, merci, c'est gentil.
Et du coup, alors, en fait, tu nous disais... justement, à ma question d'avance, c'est en fait, tu me disais que t'avais pas mal sympathisé avec différentes personnes de la promo, donc je vais pas te demander comment ça s'était passé ton intégration dans l'école ensuite, mais justement, avec les jurés, après cet entretien, second entretien lunaire mais salvateur, comment ça s'est passé les cours? Est-ce que tu avais des gens du jury pendant les cours? C'était des profs aussi?
Ouais, bah écoute, ça s'est très très bien passé sur le relationnel. Les personnes de mon jury sont devenues mes profs. En fait, deux personnes de ce jury étaient les responsables de promotion, mais qui m'aimaient bien en fait par la suite. Je pense que ces personnes m'aimaient bien, ce qui n'était pas forcément réciproque du coup, vu mon passif avec elles.
Ah ouais.
Mais elles m'aimaient bien. Et les personnes de ma promotion, c'est vrai que je faisais partie des personnes qui avaient quand même un certain bagage universitaire. J'avais travaillé également avant de reprendre mes études, donc on était très très peu en fait à avoir travaillé et repris des études, et je me suis retrouvée vraiment avec des gens qui étaient beaucoup plus dans le mood des études, alors que moi j'étais en mode je veux travailler, laissez-moi travailler, je suis pas là pour faire des partiels, je me fiche des partiels.
Mais d'ailleurs, en parlant de travailler, les alternances, comment ça s'est passé? Puisque quand tu as raté ton premier jury, tu as évidemment dû laisser tomber l'alternance dont tu avais réussi à décrocher des entretiens. Comment ça s'est passé ensuite?
Alors, il faut savoir que j'ai eu aussi un foirage sur une des alternances. Avant ce premier jury, j'ai rencontré les producteurs d'une société de production d'animation que j'aime énormément. Donc, on passe entretien, gros coup de cœur. Vraiment, on a parlé pendant une bonne heure, voire une heure et demie. Donc, ce qui est très bon signe. Et il me renvoie un message le soir même en me disant, voilà, Jade, pas de soucis, on va te prendre en alternance, on t'envoie une lettre d'ici 2 jours. Je me suis dit, mais c'est gagné, c'est trop bien, ça, je suis vraiment trop contente. Donc le temps passe et j'ai rien au bout de ces 2 jours. Je fais, oh là là, ça commence à puer. Et je reçois un mail où on me dit, voilà, écoutez, on a contacté l'une de vos précédentes structures dans lesquelles vous avez travaillé, de vos anciens employeurs. Ils ne nous ont pas dit du bien de vous, donc on ne vous prend pas.
What?
Ah ouais. Donc j'ai contacté à peu près toutes mes entreprises de stage jusqu'au fameux distributeur avec qui ça s'était pas très bien passé. Je sais que c'est eux qui m'ont craché dessus. Donc tu vois, je crois que c'était 1 an et demi, voire 2 ans après que j'étais chez eux. J'ai trouvé ça honteux. Ah, c'est honteux, c'est honteux. Et j'ai appris par la suite que cette société de production d'animation qui a failli me prendre, en fait, c'était pas le top d'aller travailler chez eux. Donc mine de rien, ils m'ont rendu un très très grand service.
Ouais, finalement, voilà.
Ouais, voilà, finalement, c'est pas plus mal. Franchement, c'est pas plus mal. Et du coup, pour la deuxième année, pareil, j'ai recherché une entreprise et j'ai fini par trouver une alternance. Je crois que j'ai trouvé une alternance le 31 août. Vraiment, je me souviens que c'était mon tout dernier jour. J'avais trouvé un autre travail après. C'était le jour de mon départ du CDD que j'avais trouvé avant de reprendre mes études. Le dernier jour, je reçois la confirmation comme quoi cette structure me prenait en alternance. Donc voilà, j'étais très contente. Je pouvais attaquer ma rentrée l'esprit léger. Et j'ai travaillé du coup pour une société de production d'animation qui est spécialisée dans la publicité. Donc j'ai travaillé pour plein de projets de publicité en animation.
Ah, ça doit être hyper intéressant aussi.
C'est très sportif, c'est très intense, mais c'est vraiment très très cool. J'ai pu travailler sur des projets vraiment très chouettes et avec des personnes extraordinaires.
Alors du coup, tu nous disais aussi que tu avais commencé ta formation avec, presque en même temps que le Covid. Comment ça s'est passé, cette cohabitation?
Ah là, je me souviens que ça avait été particulier. Bah, en même temps que le Covid, oui et non, dans le sens où j'ai commencé ma rentrée en septembre. Le Covid, il est arrivé en mars.
Ouais.
Donc, j'ai quand même eu un début d'année. En fait, ça a été une année même particulière tout court, je me rends compte, parce que en décembre, pour les Parisiens, nous avons eu les grèves RATP.
Exact.
C'était très très dur. Je me souviens que je faisais 1 heure pour aller à mon travail le matin, 1 heure le soir dans le froid de décembre. Pour aller à l'école, c'était 1 heure et demie le matin, 1 heure et demie le soir. Pendant plus d'un mois, j'ai craqué. Au bout d'un moment, je me suis mis en arrêt maladie pendant une semaine parce que j'étais
Mais
épuisée,
tu
quoi. Je
m'étonnes, bah oui.
pouvais plus tenir. J'étais vraiment trop trop fatiguée. Et l'alternance, le milieu dans lequel j'évoluais, c'était un milieu qui demandait des horaires assez conséquents. Je partais du travail souvent aux alentours de 20 h. Donc tu
Ah
vois,
oui.
j'étais vraiment épuisée. Donc il y a eu cette première partie d'année où vraiment février, on était déjà un petit peu à bout. Ensuite, on a eu la chance de pouvoir aller au festival du film de Berlin. Donc c'était un petit peu l'une des grandes étapes de sa formation. Donc j'étais en Allemagne et 2 semaines plus tard, je crois que c'était 2 semaines plus tard, on avait les annonces du confinement. Donc on était un peu paumés. Moi, mon alternance, elle se passait un petit peu moyennement à l'époque, dans le sens où je pense que je suis pas encore une fois tombée sur la bonne tutrice qui m'a un petit peu mis dans un endroit et qui m'a dit bon allez tu te démerdes. Et on me voyait vraiment pas comme une étudiante en production, ce qui faisait qu'on me donnait en gros des tâches d'office manager. Donc
Ah
c'est
oui,
pas un
d'accord.
problème dans un ou 2 mois, mais tu vois au bout de 3 4 mois que j'étais là, c'était les seules questions qu'on me posait c'était Jade, est-ce que t'as appelé le plombier pour déboucher les toilettes?
Ouais, et puis toi, t'es censé apprendre ton métier.
C'est ça. Et en parallèle, j'ai eu énormément de frustration parce que cette société a décidé d'employer une personne qui n'avait pas d'expérience, qui n'avait jamais travaillé et qui pouvait pas faire d'études cette année-là, qui connaissait le patron et qui a été employée. Et cette personne-là, je la voyais apprendre ce que je voulais apprendre tous les jours. Et
Ah
j'étais dégoûtée
oui.
en fait. J'étais en mode, pourquoi est-ce que je fais ces études si à côté on emploie sans aucun souci? En plus, elle était employée en tant qu'employée, donc tu vois, elle était payée un
Ah
tarif
oui.
plus convenable pour apprendre ce que moi je voulais apprendre. Et j'entendais toujours cette personne à côté de moi apprendre, et c'était trop bien pour elle, et elle le méritait, elle fait du bon boulot. Mais moi à côté, personne ne m'apprenait, personne prenait le temps de s'asseoir à côté de moi pour m'expliquer. Et on me disait juste, est-ce que tu as fait les courses pour le studio? Est-ce que tu as appelé le plombier? Est-ce que tu as appelé le réparateur? Et personne ne prenait le temps de m'expliquer les choses. Il y avait une personne qui essayait, mais elle n'avait pas forcément le temps. Et ça a été très compliqué, et ça a été une grande remise en question même de me dire, est-ce que j'arrête là? Est-ce que ça sert à quelque chose?
Ah oui.
Pourquoi est-ce que je m'emmerde à faire ça si je retrouve exactement le même genre d'attitude que dans les autres milieux? Donc il y a eu le Covid qui est arrivé en mars, et c'est le Covid qui m'a un petit peu sauvé la mise, dans le sens où il n'y avait plus de cours, où les Gobelins se sont retrouvés tellement pris au dépourvu qu'il n'y a plus de cours, et j'étais très contente parce que j'apprenais plus rien des cours et ça me saoulait profondément. Donc j'avais l'occasion d'être certes en télétravail, mais à plein temps pour mon studio. Il y
OK.
a une semaine d'acclimatation où je ne savais pas vraiment sur quel pied danser, comme ma tutrice s'occupait pas de moi, mais j'avais pas de nouvelles. J'ai eu une semaine où complètement d'angoisse où je me suis dit, attends, maintenant je peux même plus gérer les problèmes du bureau, qu'est-ce que je vais faire? Et il y avait une production d'animation en 2D, sachant que moi je travaillais dans une structure qui était spécialisée dans la 3D, mais 2D qui était en train de commencer, et le producteur qui avait été mis sur le projet, et que je remercierai toujours de tout mon cœur, m'a pris un peu sous son aile et m'a dit, bah écoute, voilà, moi j'aurais potentiellement besoin de quelqu'un, est-ce que ça t'intéresse? Je te montrerai un petit peu les ficelles. Et de là, je suis passée d'assistante à coordinatrice, à carrément chargée de projet,
Ah oui.
parce que le projet, voilà, j'ai vraiment eu toutes les étapes un petit peu, j'ai un peu grimpé les échelons comme ça, et je me suis retrouvée en septembre de la même année, chargée de la production, parce que le chargé de prod ne pouvait pas continuer sur le projet. Et j'ai dû reprendre le projet à un moment, vraiment moi avec mes petites mimines, et c'était vraiment super cool.
C'est trop bien. Et bien, en plus, ça fait une super transition vers ma prochaine question. Donc, parler de ton après-déclic. Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui exactement? Est-ce que tu es toujours dans cette boîte? Est-ce que tu es toujours en formation? Comment ça se passe?
Alors, j'ai terminé ma formation en juin de l'année dernière, donc en juin 2020. 2020, oui, bien, c'est bien ça, mention bien pour
Oh,
ne pas
bravo.
me jeter des fleurs. Et j'ai eu pas mal de doutes en fait sur est-ce que j'allais continuer avec ma structure d'alternance parce que je voyais qu'ils n'étaient pas contre me reprendre, quoi, mais j'étais pas leur priorité. En fait, le boss du studio m'a très clairement dit, écoute, ma priorité, c'est la personne que j'ai embauchée, que je connais, ce n'est pas toi. Il me l'a très clairement dit. Et je me suis dit, oups. Est-ce que j'ai envie de
Bon.
continuer de travailler avec ces gens-là? Et j'ai un projet qui s'est lancé en septembre-octobre pour Ariana Grande.
Ah,
J'adore. Et du coup, il y avait une pub pour son parfum qui est sortie depuis, qu'on
ouais.
pouvait voir sur les internets. Et on m'a proposé un petit peu de travailler dessus. Donc, c'était très cool. J'ai
Incroyable.
cette opportunité. Et ça s'est plus ou moins bien passé pour plein de raisons différentes, particulièrement humaines. Et j'ai terminé l'année pas très très bien parce que je me sentais pas prise en considération. Tu vois, enfin, j'avais déjà eu la puce à l'oreille depuis le temps que j'étais là-bas, mais je me sentais pas prise en considération. Pas que je m'entendais pas avec les gens, mais je sais pas pourquoi. Voilà, c'est dès que je parlais, on m'écoutait pas forcément. J'avais pas l'impression d'être écoutée, j'avais pas l'impression d'être entendue. Et plus le temps passait, plus je voyais les projets sur lesquels on allait mettre plus tard, dont je ne peux pas parler parce que c'est encore privé, ces projets ne sont pas sortis. Et le problème étant que moi, j'avais fait énormément d'animation 2D, que j'avais envie de faire de la 3D, ce qui n'est pas le même processus de fabrication du tout. Et j'ai demandé à plusieurs fois à mon boss qui me disait « Non, Jade, t'es pas capable, tu vas pas comprendre, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui gère vraiment bien le projet. » Et je me suis retrouvée encore devant une personne qui me disait que j'étais pas capable. Je lui disais « Mais attends, ça fait un an que je suis là. » Que je vois à peu près comment ça marche. La personne qui est en train de faire ça, elle avait aucune formation, elle avait même pas fait d'école. Elle a compris juste en étant mise dans le bain. Moi, le bain, ça fait un an que je suis dedans, je connais le process. Est-ce qu'on peut me laisser essayer, s'il vous plaît? Et on m'a dit non, non, voilà, on veut vraiment quelqu'un qui puisse leader le projet de A à Z. Ce que je peux entendre comme raisonnement. Le fait est que quelques semaines plus tard, j'entends voilà la nouvelle chargée de prod, on va venir t'expliquer comment ça marche pour que tu te sentes à l'aise, c'est pas grave si t'as pas beaucoup de fait 3D avant. Et là, j'ai fait, mais c'est pas possible.
Non, mais c'est une blague.
C'est une blague, donc je me souviens, ça se passait pas très bien en plus pour d'autres raisons humainement avec une autre personne. Et je me souviens m'être enfermée dans les toilettes, avoir pleuré, mais vraiment pleuré ma race, en me disant, mais est-ce que je suis en train de me planter? Est-ce qu'en effet, j'ai rien à faire ici? Et le destin a fait que, les choses ont fait que, je suis rentrée en contact avec une autre société de production, qui m'a proposé, avec qui j'ai eu un premier entretien. D'abord en tant qu'assistante de production, donc sur un projet qui me plaît beaucoup. Et j'ai passé cet entretien, c'est une boîte que j'estime énormément, qui a une très bonne réputation dans le milieu français, même à l'international. Et j'ai passé cet entretien en me disant, de toute façon, j'y crois pas. Sur un malentendu, sait-on jamais. Donc, je passe entretien. Très bon feeling. Je m'entends vraiment très bien avec les personnes. Mais j'ai pas le poste. Donc, je me dis, voilà, c'était trop beau pour être vrai. Et on me recontacte et on m'explique, voilà, on veut pas te prendre comme assistante parce qu'on estime que tu peux faire plus que nous, on aimerait bien te prendre comme coordinatrice ou comme chargée de production.
Mais trop bien.
Mais tu vois, on me proposait pas de poste derrière. Donc, j'étais en
Ah
mode, bon,
mince.
c'est de la politesse. Ça se trouve, ça n'a pas recommencé. On me rappelle une semaine plus tard pour me proposer un autre poste qui me convenait pas trop par rapport à ce que je recherchais. Donc, je prends le risque et le pari de me dire, bon, je le refuse. De toute façon, je pense pas que ce soit un poste qui va me rendre heureuse. Et on me recontacte, pareil, je crois, une ou deux semaines plus tard avec le poste que j'occupe présentement
Mais non.
et qui me plaisait. Je me souviens que quand il m'avait présenté le poste, je me disais, mais c'est pas
Aïe.
exactement ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais je pense, ça y est, je sens que c'est le bon truc. Donc, ouais,
Aïe.
ok. Et j'ai eu ce poste.
C'est génial, bravo. Et qu'est-ce que tu retiens de tout le voyage que tu as effectué dans ta vie professionnelle?
Que c'est difficile de trouver sa voie.
C'est clair.
J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui, à 18 ans, savent ce qu'ils veulent faire.
C'est sûr.
Et tu vois, 10 ans plus tard, ils font ce qu'ils disaient vouloir faire à 18 ans. Et ce que je retiens également, c'est qu'il existe une multitude de professions qu'on ne connaît pas forcément, qui paraissent pas forcément sexy au premier abord. Franchement, tu m'aurais dit à 18 ans, Jade, ça te dit la production, j'aurais fait, oh, jamais. Enfin, non merci, quoi. Et c'est des métiers qu'on découvre, on évolue avec le temps. Je pense qu'il faut se laisser le temps également d'avoir un certain parcours, que ce soit professionnel ou personnel. Il faut se laisser le temps de développer nos goûts, de savoir ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas, et que ça demande du temps. C'est bien si vous trouvez ça à 20 ans, c'est pas grave si comme moi vous le trouvez à 25 ans, mais il faut se laisser le temps de savoir ce qu'on a envie de faire, et une fois qu'on voit quelque chose qui nous plaît, faut y aller. Faut y aller.
C'est hyper, hyper inspirant ce que tu dis. Et est-ce que si c'était à refaire, tu changerais quelque chose?
Absolument pas. C'est vraiment ces échecs, en fait, qui sont même pas des échecs, c'est juste des petites montagnes que tu décides d'escalader. C'est soit, en fait, c'est comme une montagne, soit tu décides de l'escalader, tu dis vas-y, je le fais, ça va être compliqué, mais je peux le faire, je sais que j'ai les capacités de le faire, ce n'est pas impossible. Soit tu restes au pied de la montagne et tu te dis bon, bah écoute, c'est pas pour moi, peut-être que je suis pas faite pour grimper une montagne, je suis pas alpiniste. Et je pense que j'aurais rien changé. Le fait également que j'ai été recalée une première fois pour X ou Y raison. Ça m'a permis de plaquer mon petit bullshit job comme ça du jour au lendemain, ce qui m'avait vraiment, parce que ça se passait plus si bien qu'avant. Ça m'a permis également, pendant un an, d'avoir mon premier travail, en fait, mon premier vrai travail qui était à la hauteur des études que j'avais faites. Donc à l'époque, j'étais iconographe pour une maison d'édition et je m'occupais de faire tous les visuels d'un manuel scolaire.
Trop bien.
Je m'occupais, c'était très, très chouette. Pendant un an, j'ai fait ça en fait entre mes deux tentatives de gobelin. Ça m'a permis de mettre, c'est très con, mais mettre de l'argent de côté parce que malheureusement, pendant que je faisais mon alternance, je n'avais pas d'aide du gouvernement. Ah oui. J'avais pas d'APL, j'avais rien du tout. Et je crois que je gagnais, si je me trompe pas, 900 euros par mois. Donc avec 900 euros par mois, je te dis, ça me payait même pas mon loyer.
Bah tu vas pas loin, ouais, c'est clair, surtout à Paris. Hein.
C'est ça, et du coup, cette année, ça m'a permis de prendre confiance en moi de manière professionnelle parce que j'étais un poste de cadre, j'avais des responsabilités, j'étais très contente de ce travail. Ça m'a permis de mettre de l'argent de côté, ce qui fait que j'ai pu vivre cette année très sereinement en n'ayant pas peur, en comptant pas forcément mes sous à la fin du mois et de manière très confortable. Et finalement, c'est bien aussi de se planter. Tu sais, c'est même pas de se planter, mais c'est bien de rencontrer des obstacles. Je trouve que ça te donne une autre vision des choses, ça te permet de voir les choses sous un autre angle. Et ça permet de dire, ok, c'est une difficulté, est-ce que moi je suis capable d'aller outre cette difficulté? Et puis mince, je suis désolée, mais c'est comme dans tous les films, c'est comme dans tous les livres. S'il n'y a pas de difficulté, on se fait chier.
Ça, c'est clair. Eh bien, Jeanne, je te remercie beaucoup pour cet épisode ultra intéressant. Puis merci d'avoir raconté ton parcours. J'espère que ça inspirera plus d'une personne qui nous écoute.
Eh bien, merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli. J'ai vraiment passé un super moment.
Merci d'avoir écouté le déclic de Jeanne. Nous avons d'ailleurs une petite surprise pour vous. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour la retrouver pour un déclic hors série parlant de son podcast « Le N'importe qui ». En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'écouter nos autres formats, la chanson, l'apéro et le jeu. Pensez également à nous suivre sur les réseaux sociaux à 18h17 production. À la semaine prochaine.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.